Chapitre 14. Les délicatesses de Lampourde. On peut aisément s'imaginer la fureur de Vallombreuse après l'échec que lui avait fait subir la vertu d'Isabelle, secourue si à propos par l'intervention des comédiens. Quand il rentra à l'hôtel, l'aspect de son visage, blême d'une rage froide, donna à ses domestiques des claquements de dents et des sueurs d'agonie, car sa cruauté naturelle se livrait, en ses exaspérations, à des emportements néroniens, aux dépens du premier malheureux qui lui tombait sous la main. Ce n'était point un seigneur commode que le duc de Vallombreuse, même quand il était de joyeuse humeur, mais quand il était fâché, mieux eût valu se rencontrer nez à nez sur le pont d'un torrent avec un tigre à jeun. Il referma derrière lui toutes les portes qui s'ouvraient à son passage d'une telle violence qu'elles faillirent sauter hors des gonds et que la dorure des ornements se détacha par écailles. Arrivé à sa chambre, il jeta son feutre à terre si rudement que la forme en resta tout aplatie et que la plume ébouriffée se brisa net. Pour donner un peu d'air à sa furie, il se dégagea la poitrine sans prendre garde au bouton de diamant de son pourpoint qui sautait à droite ou à gauche sur le parquet, comme des pois gris sur un tambour. Les dentelles de sa chemise ne furent bientôt plus, sous les crispations de ses doigts nerveux, qu'une charpie effiloquée, et d'un coup de pied, il envoya rouler les quatre ferrants en l'air un fauteuil qu'il avait rencontré dans ses déambulations colériques, car il s'en prenait même aux objets inanimés. « L'impudente créature ! » s'écria-t-il, tout en se promenant avec une agitation extrême. « J'ai bien envie de la faire prendre par les sergents et jeter en un cul de basse fosse d'où elle ne sortirait que rasée et fouettée pour aller à l'hôpital ou à quelque couvent de filles repenties. Il ne m'en serait pas difficile d'obtenir l'ordre, mais non, sa constance ne ferait que s'affermir de ses persécutions et son amour pour Cigognac s'augmenterait de toute la haine qu'elle prendrait à mon endroit. Cela ne vaut rien, mais que faire ?» Et il continuait sa promenade forcenée d'un bout à l'autre du cabinet comme une bête fauve en sa cage, sans fatiguer sa rage impuissante. Pendant qu'il se démenait ainsi, sans prendre garde à la fuite des heures qui passent toujours d'un pied égal, que nous soyons contents ou furieux, la nuit était venue, et Picard, bien qu'on ne l'eût pas appelé, prit sur lui d'entrer et d'allumer les bougies, ne voulant pas laisser son maître se mélancolier dans l'ombre, mère des humeurs noires. En effet, comme si les lumières des candélabres lui eussent éclairci l'intellect, Vallombreuse, que distrayait son amour pour Isabelle, se ressouvint de sa haine pour Cigognac. Mais comment se fait-il que ce gentillâtre de malheur n'ait pas encore été dépêché ? Dit-il en s'arrêtant tout à coup. J'avais cependant donné l'ordre formel à Mérindole de l'expédier lui-même ou au moyen de quelques gladiateurs plus habiles et plus braves que lui, s'il ne suffisait à cette besogne. Morte la bête, mort le venin. Quoi qu'en dise Vidalinque, le Cigognac supprimé, l'Isabelle reste à ma merci, frémissante de terreur et déliée d'une fidélité désormais sans objet. Sans doute elle ménage ce bélitre dans l'idée de s'en faire épouser, et c'est pour cela qu'elle se livre à ces simagrées de pudeur hyrcanienne et de vertus inexpugnables, repoussant l'amour des ducs les mieux faits, comme s'ils fussent gueux de l'hostière. Seul, j'en aurai bientôt raison, et en tout cas, je serai vengée d'un arrogant par trop outrageux qui m'a navré au bras et que je trouve toujours comme un obstacle entre moi et mon désir. Ça, faisons comparaître Mérindole et sachant où en sont les choses. » Mérindole, appelé par Picard, se présenta devant le duc plus pâle qu'un voleur qu'on mène prendre, les tempes emperlées de sueur, la gorge sèche et la langue empâtée. Il lui eût été bon, en ce moment d'angoisse, d'avoir un caillou dans la bouche comme Démosthène, orateur athénien, haranguant la mer pour se donner de la salive, faciliter la prononciation et délier la faconde, d'autant que la face du jeune seigneur était plus tempétueuse que celle d'aucune mer ou assemblée de peuple à l'agora. Le malheureux, faisant effort pour se tenir droit sur ses jarrets titubants comme s'il fût ivre, encore qu'il n'eût bu depuis le matin de quoi noyer une mouche, tournait son chapeau devant sa poitrine avec un décontenancement idiot. Il n'osait lever les yeux vers son maître, dont il sentait le regard tomber sur lui comme une douche alternativement de feu et de glace. « Eh bien, animal !» dit brusquement Vallombreuse. « Vas-tu rester longtemps ainsi planté là, avec cette mine patibulaire, comme si tu avais déjà au cou la cravate de chanvre que tu mérites, encore plus pour ta lâcheté et maladresse que pour tes méfaits ?»«
J'attendais les ordres de monseigneur, » fit Mérindol en essayant de sourire. « Monsieur le duc sait que je lui suis dévoué jusqu'à la corde inclusivement. » Je me permets cette plaisanterie à cause de la gracieuse allusion que vient de faire.
C'est bon, interrompit le duc. Ne t'avais-je pas chargé de nettoyer mon chemin de ce cigognaque maudit qui me gêne et m'obstrue? Tu ne l'as pas fait, car j'ai bien vu à la joie et sérénité d'Isabelle que ce maraud respire encore et que je n'ai point été obéi. En vérité, c'est bien la peine d'avoir des bretteurs assez gages pour être servi de la sorte. Ne devriez-vous pas, sans que j'aie besoin de parler, deviner mes sentiments à l'éclair de mes yeux, aux palpitations de mes cils, et tuer silencieusement quiconque me déplaît? Mais vous n'êtes bon qu'à vous ruer en cuisine, et vous n'avez de cœur que pour égorger des poulets. Si vous continuez ainsi, je vous rendrai tous au bourreau qui vous attend. Abject canaille que vous êtes, scélérats timides, gauches assassins, rebuts et honte du bagne.
« Monsieur le duc, je le vois avec peine, » objecta Mérindol sur un ton humble et pénétré, « mais connaît le zèle, et j'oserais le dire, le talent de ses fidèles serviteurs. Mais le cigognac n'est point un de ces gibiers ordinaires qu'on traque et qu'on abat au bout de quelques minutes de chasse. À une première rencontre, peu s'en est fallu qu'il ne me fendît le moule du bonnet jusqu'au menton, et si n'avait-il qu'une épée de théâtre émoussée et mornée, dont bien me prit. Une seconde embûche le trouva sur ses gardes, et tellement prête à bien faire que force me fut, ainsi qu'à mes camarades, de m'éclipser, sans risquer un combat inutile où il eût été secouru et qui eût fait une esclandre fâcheuse. Maintenant il connaît ma figure, et je ne saurais l'approcher qu'il ne mette incontinent la main à la poignée de sa rapière. J'ai donc été obligée d'aller chercher un spadassin de mes amis, la meilleure lame de la ville, qui le guette et le dépêchera, sous prétexte de lui tirer la laine, à la première occasion crépusculaire ou nocturne, sans que le nom de monsieur le duc puisse être prononcé en tout cela, comme il n'eût pas manqué si le coup avait été fait par nous qui appartenons à sa seigneurie.
« Le plan n'est pas mauvais, » répondit négligemment Vallombreuse, radoucie, « et peut-être vaut-il mieux que les choses se passent de la sorte. » Mais tu es sûr du cœur et du bras de ce gladiateur? Il faut un brave pour défaire Cigognac, lequel, je l'avoue, bien que je le haïsse, n'est point lâche, puisqu'il a bien osé se mesurer contre moi-même.
Oh ! Répliqua Mérindol avec importance et certitude.
Jacquemin, l'empourde est un héros qui a mal tourné. Il passe en valeur les Achilles de la fable et les Alexandres de l'histoire. Il n'est pas sans reproche, mais il est sans peur. »
Picard, qui depuis quelques minutes rôdait par la chambre, voyant l'humeur de Vallombreuse un peu rassérénée, ne feignit pas de lui dire qu'un homme d'assez bizarre tournure était là, qui demandait instamment à lui parler pour chose d'importance.
« Fais entrer ce drôle, » répondit le duc. « Mais malheur à lui s'il me dérange pour des billevesées. « Je le ferai pelauder si rudement qu'il y laissera son cuir. »
Le valet sortit afin d'introduire le nouveau visiteur, et Mérindol alla se retirer discrètement quand l'entrée d'un étrange personnage lui cloua les pieds au plancher. Il y avait en effet de quoi rester stupide d'étonnement, car l'homme, conduit près de Vallombreuse par Picard, n'était autre que l'ami Jacquemin Lempourde en personne naturelle. Sa présence inattendue en un tel lieu devait faire supposer quelque événement singulier et hors de toute prévision. Aussi Mérindol était-il fort inquiet en voyant paraître ainsi, sans intermédiaire, devant le maître, cet agent de seconde main, cette machine subalterne dont la besogne devait s'accomplir dans l'ombre.
Jacquemin Lempourde, du reste, ne semblait nullement décontenancé.
Dès la porte, il avait même fait un petit clin d'œil amical à Mérindol, et il se tenait à quelques pas du duc, recevant en plein sur la figure la lumière des bougies qui faisait ressortir les détails de son masque caractéristique. Son front, où la pression habituelle du feutre avait tracé une raie rougeâtre transversale, pareille à la cicatrice d'une blessure, montrait par des gouttes de sueur qui n'avaient pas séché encore que le spadassin avait marché vite ou venait de se livrer à un exercice violent. Ses yeux, d'un gris bleuâtre mélangé de reflets métalliques, se fixaient sur ceux du jeune duc avec une impudance tranquille qui donnait le frisson à Mérindol. Quant à son nez, dont l'ombre lui couvrait toute une joue comme l'ombre de l'Etna couvre une grande partie de la Sicile, ce promontoire de chair découpait grotesquement son profil étrange et monstrueux, doré sur la crête par un vif rayon de clarté qui le faisait reluire. Ses moustaches, poissées d'un cosmétique grossier, ressemblaient à une brochette dont on lui eût traversé la lèvre supérieure, et sa royale se retroussait comme une virgule mise à l'envers. Tout cela lui composait une physionomie la plus hétéroclite du monde, de celle que Jacques Callot aime à croquer de sa pointe originale et vive. Son costume constituait un pourpoint de buffle, des chausses grises et un manteau écarlate dont les galons d'or paraissaient avoir été récemment décousus, comme l'indiquaient des raies de couleur plus fraîche, visibles sur le fond un peu fané de l'étoffe. Une épée à la lourde coquille était suspendue à un large ceinturon brodé de cuivre qui cerclait la taille efflanquée mais robuste du maraud. Un détail inexplicable préoccupait singulièrement Mérindol, c'est que le bras de l'empourde, sortant de dessous son manteau comme une torchère à supporter des bougies jaillissant d'une paroi de lambris, tenait au poing une bourse dont la panse rondelette annonçait une somme respectable. Ce geste d'offrir de l'argent au lieu d'en prendre était tellement en dehors des habitudes physiques et morales de maître Jacquemin que le bretteur s'en acquittait avec une gaucherie emphatique, solennelle et roide, tout à fait risible. Ensuite, cette idée que Jacquemin l'empourde abordait le duc de Vallombreuse comme s'il eût voulu le rémunérer de quelque service était si monstrueusement en dehors de la vraisemblance que Mérindol en écarquillait les yeux et en ouvrait la bouche toute ronde, ce qui, au dire des peintres et physionomistes, est la propre expression de la surprise à son comble.
« Eh bien, maroufle, » dit le duc, lorsqu'il eut assez considéré ce falot personnage. « Est-ce que tu veux me faire l'aumône, par hasard, que tu mets cette bourse sous le nez, avec ton grand bras qu'on prendrait pour un bras d'enseigne ?»« D'abord, monsieur le duc, » dit le bretteur, après avoir imprimé aux longues rides qui sabraient ses joues et les coins de sa bouche une sorte de trépidation nerveuse, « n'en déplaise à votre grandeur, je ne suis pas un maroufle. » « Je m'appelle Jacquemin l'Empourde, homme d'épée. Mon état est honorable. Aucun travail manuel, aucun commerce ou industrie ne m'ont jamais dégradé. Je n'ai même point, en mes plus dures infortunes, soufflé le verre, occupation qui n'emporte pas la qualité de gentilhomme, car il y a péril, et les manants n'affrontent pas volontiers la mort. » Je tue pour vivre, au risque de ma peau et de mon col, car j'exerce toujours seul et j'avertis que j'attaque, ayant horreur de la traîtrise et lâcheté. Quoi de plus noble ? Retirez donc cette épithète de maroufle que je ne saurais accepter qu'à titre de plaisanterie amicale. Elle outrage, par trop sensiblement, les délicatesses chatouilleuses de mon amour-propre. Soit « Maître Jacquemin l'Empourde, puisque vous y tenez, » répondit le duc de Vallombreuse, que les bizarreries formalistes de cet escogriffe si campé sur la hanche amusaient malgré lui. « Maintenant, expliquez-moi ce que vous venez faire chez moi. Une escarcelle au poing et secouant vos écus comme un fou sa marotte ou un ladre sa cliquette. » Jacquemin, satisfait de cette concession à sa susceptibilité, inclina la tête
tout en restant le corps droit, et fit exécuter à son feutre plusieurs passes qui constituaient à son idée un salut mêlant à la mâle liberté du soldat la souplesse du courtisan.
« Voici la chose, monsieur le duc. J'ai reçu de Mérindol des avances pour expédier un certain Cigognac, dit le capitaine Fracasse. Par des circonstances indépendantes de ma volonté, je n'ai pu satisfaire à cette commande, et comme j'ai de la probité dans mon industrie, je rapporte à qui de droit l'argent que je n'ai point gagné. »
En disant ces mots, il posa avec un geste qui ne manquait pas de dignité la bourse sur un coin de la belle table incrustée en pierre dure de Florence.
« Voilà bien, dit Valombreuse, ces bravaches bons à figurer dans les comédies, ces enfonceurs de portes ouvertes, ces soldats d'Hérode dont la valeur se déploie à l'encontre des enfants à la mamelle et qui s'enfuient quand la victime leur montre les dents, ânes couverts d'une peau léonine dont le rugissement est un braire. Allons, avoue-le de bonne foi, Cigognac t'a fait peur. »
Jacquemin Lempourde n'a jamais eu peur, reprit le spadassin d'un ton qui, malgré l'apparence grotesque du personnage, n'était pas dénué de noblesse. Cela soit dit sans rodomonta des vantardises à l'espagnol ou à la Gascogne.
Dans aucun combat, l'adversaire n'a vu la figure de mes épaules. Je suis inconnu de dos, et je pourrais être incognito, bossu comme Ésope. Ceux qui m'ont apprécié à l'œuvre savent que les besognes faciles me dégoûtent. Le péril me plaît et j'y nage comme le poisson dans l'eau. J'ai attaqué le Cigognac Segundum Artem avec une de mes meilleures lames de Tolède, un Alonso de Sahagun le Vieux.
« Que s'est-il passé ? » dit le jeune duc, « dans ce combat singulier où tu ne sembles pas avoir eu l'avantage puisque tu reviens restituer les sommes. »
Tant en duel qu'en rencontre et assaut contre un ou plusieurs, j'ai couché sur le carreau 37 hommes qui ne s'en sont pas relevés. Je néglige les estropiés ou navrés plus ou moins grièvement, mais le Cigognac est enfermé dans sa garde comme dans une tour d'airain. J'ai employé contre lui toutes les ressources de l'escrime, feinte, surprise, dégagement, retraite, coup inusité. Il a parade et riposte à chaque attaque. Et quelle fermeté jointe à quelle vitesse! Quelle audace tempérée de prudence! Quel beau sang-froid! Quelle imperturbable maîtrise! Ce n'est pas un homme, c'est un dieu, l'épée à la main. Au risque de me faire embrocher, je jouissais de ce jeu si fin, si correct, si supérieur. J'avais en face un partenaire digne de moi. Pourtant, comme il fallait en finir, après avoir prolongé la lutte autant que possible pour me donner le temps d'admirer cette magnifique méthode, je pris mon temps et risquai la botte secrète du Napolitain, que je possède seul au monde, puisque Girolamo est mort maintenant et me l'a légué en héritage. Personne d'autre que moi n'est d'ailleurs capable de l'exécuter en toute sa perfection, d'où dépend le succès. Je la portais si bien et si à fond que Girolamo lui-même n'eût pu mieux faire. Eh bien, ce diable de capitaine Fracasse, ainsi qu'on le nomme, apparaît avec une vitesse éblouissante et d'un revers si ferme qu'il ne m'a laissé au point qu'un tronçon d'épée dont je m'escrimais comme une vieille femme qui menace un gamin d'une cuillère à peau. Tenez, voici ce qu'il a fait de mon Sahagun.
Là-dessus, Jacquemin Lempourde tira piteusement du fourreau un bout de rapière portant pour marque un S couronné et montra au duc la cassure nette et brillante de la lame.
« Ne voilà-t-il pas un coup prodigieux ? » continua le spadassin, « qu'on pourrait attribuer à la Durandal de Roland, à la Tissona du Cid ou à la Haute-Claire d'Amadis de Gaulle ? Tuer le capitaine Fracasse est au-dessus de mes talents, je l'avoue en toute modestie. La botte que je lui ai portée n'a eu jusqu'à présent que cette parade, la pire de toutes, celle qui se fait avec le corps.
quiconque l'a essuyé a eu à son pourpoint une boutonnière de plus par où l'âme s'est enfuie. En outre, comme tous les vaillants, ce capitaine fut généreux. Il me tenait à bout de son épée, assez estomaqué et pantois de ma déconvenue, et il me pouvait mettre à la brochette comme un bec-figue, rien qu'en étendant le bras. Il ne l'a point fait, ce qui est très délicat de la part d'un gentilhomme assailli à la brune en plein Pont-Neuf. Je lui dois la vie, et encore, que ce ne soit pas grand-chose vu le cas que j'en fais, je lui suis lié de reconnaissance. Je n'entreprendrai plus rien contre lui. Il m'est sacré. D'ailleurs, en eussé-je les moyens, je me ferais scrupule de gâter ou détruire un si beau tireur, d'autant plus qu'ils se font rares par ce temps de ferrailleurs vulgaires où l'on tient une épée comme un manche à balai. C'est pourquoi je viens prévenir monsieur le duc qu'il ne compte plus sur moi. J'aurais peut-être pu garder l'argent comme dédommagement de mes risques et périls, mais ma conscience y répugne. « De par tous les diables, reprends ta somme au plus vite !» dit Valombreuse d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Ou je te fais jeter par les fenêtres sans les ouvrir, toi et ta monnaie !» Je ne vis jamais qu'aucun si scrupuleux. Ce n'est pas toi, Mérindol, qui serais capable de ce beau trait à insérer dans les exemples de la jeunesse. Comme il vit que le bretteur hésitait, il ajouta « Je te donne ces pistoles pour boire à ma santé. » « Cela, monsieur le duc, sera religieusement exécuté, » répondit Lampourde. « Cependant, je pense que sa seigneurie ne serait pas désobligée si j'en jouais quelques-unes. » En achevant ces mots, il fit un pas vers la table, étendit son bras osseux, saisit la bourse avec une dextérité d'escamoteur et la fit disparaître comme par enchantement dans la profondeur de sa poche, où elle heurta, en rendant un son métallique, un cornet de dés et un jeu de cartes. Il était aisé de voir que ce geste lui était beaucoup plus naturel que l'autre, tant il y mettait d'aisance. « Je me retire de l'affaire en ce qui concerne Cigognac, » dit Lampourde. « Mais elle sera reprise, s'il convient à votre seigneurie, par mon alter ego, le chevalier Malartic, à qui l'on peut confier les entreprises les plus hasardeuses, tant il est habile homme. Il a la tête qui conçoit et la main qui exécute. C'est d'ailleurs l'esprit le plus dégagé de préjugés et de superstitions qui soit. J'avais ébauché, pour l'enlèvement de la comédienne à laquelle vous faites l'honneur de vous intéresser, une sorte de plan qui l'achèvera, avec ce fini et cette perfection de détail qui caractérise sa manière. » Oh, plus d'un auteur de comédie applaudi au théâtre en l'arrangement de ses pièces devrait consulter Malartic pour la subtilité de ses intrigues, l'invention de ses stratagèmes, le jeu de ses machines. Mérindol, qui le connaît, se portera garant de ses rares qualités. Certes, monsieur le duc ne saurait mieux choisir, et c'est un véritable cadeau que je lui fais. Mais je ne veux pas abuser plus longtemps de la patience de sa seigneurie. Quand elle sera décidée, elle n'a qu'à faire tracer par un homme, à elle, une croix à la craie sur le pilier gauche du radis couronné. Malartic comprendra, et dûment déguisé, se rendra à l'hôtel Valombreuse pour prendre les derniers ordres et recorder ses flûtes. Ce triomphant discours achevé, Maître Jacquemin Lampourde fit exécuter à son feutre les mêmes évolutions qu'il avait déjà décrites en saluant le duc au commencement de l'entretien, l'enfonça sur sa tête, rabattit le bord sur ses yeux et sortit de la chambre à pas comptés et majestueux, satisfait de son éloquence et de sa bonne tenue devant si grand seigneur. Cette apparition bizarre, moins étrange cependant en ce siècle de raffinés et de bretteurs qu'elle ne l'eût été à toute autre époque, avait amusé et intéressé le jeune duc de Valombreuse. Le caractère original de Jacquemin Lampourde, honnête à sa façon, ne lui déplaisait point. Il lui pardonnait même de n'avoir pas réussi à tuer Cigognac. Puisque le baron avait résisté à ce gladiateur de profession, c'est qu'il était réellement invincible, et la honte d'en avoir été blessé lui était moins cuisante à l'amour-propre.
Ensuite, quelque forcenée que fût Valombreuse, cette action de faire assassiner Sigognac lui paraissait un peu énorme, non par aucune tendresse ou susceptibilité de conscience, mais parce que son ennemi était gentilhomme, car il ne se fût fait nul scrupule de meurtrir et trucider une demi-douzaine de bourgeois qui l'eussent gêné, le sang de telle ribaudaille n'ayant de valeur à ses yeux non plus que l'eau des fontaines. Il eût préféré dépêcher son rival lui-même sans la supériorité de Sigognac à l'escrime, supériorité dont son bras, cicatrisé à peine, avait gardé le souvenir et qui ne lui permettait pas de risquer, avec des chances favorables, un nouveau duel ou une attaque à main armée. Ses pensées se tournèrent donc vers l'enlèvement d'Isabelle, qui lui souriait davantage par les perspectives amoureuses qu'il ouvrait à son imagination. Il ne se doutait pas que la jeune comédienne, une fois séparée de Sigognac et de ses camarades, ne s'humanisa et ne devint sensible au charme d'un duc si bien fait de sa personne et dont raffolaient les plus hautes dames de la cour. La fatuité de Valombreuse était incorrigible, car jamais il n'en fut de mieux fondé. Elle justifiait toutes ses prétentions et ses plus impertinentes vanteries n'étaient que vérité. Aussi, malgré l'échec récemment subi près d'Isabelle, semblait-il au jeune duc illogique, absurde, incroyable et outrageux de n'être point aimé. « Que je la tienne, se disait-il, quelques jours en une retraite d'où elle ne puisse m'échapper, et je saurai bien la séduire. Je serai si galant, si passionné, si persuasif, qu'elle s'étonnera bientôt elle-même de m'avoir si longtemps tenu rigueur. Je la verrai se troubler, muer de couleur, baisser ses longues paupières à mon aspect, et quand je la tiendrai entre mes bras, pencher sa tête sur mon épaule pour y cacher sa pudeur et sa confusion. Dans un baiser, elle me dira qu'elle m'a toujours aimé et que ses fuites n'étaient que pour m'enflammer mieux, ou bien encore appréhension et timidité de mortel poursuivie par un dieu ou autre telle charmante mignardise que les femmes savent trouver en ces rencontres, même les plus chastes. Mais quand j'aurai son âme et son corps, ah, c'est alors que je me vengerai de ses anciennes rebuffades.